Cola,
vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposé par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Et bonjour à tous et bienvenue pour une édition spéciale Prix Robin Cook. On vous rappelle ce que c'est que le prix Robin Cook. 5 polars en lice, un jury, des votes du public dans les médiathèques et bibliothèques du Sud Aveyron, même jusqu'à Rodez, et un prix Robin Cook qui sera décerné le samedi 15 juin. Les polars, on vous en a parlé toutes les dernières émissions, c'est Panique en Armorique de Dominique Sylvain, Sans collier de Michel Pedignelli, Mai 67 de Thomas Cantaloube, Géronimo et moi de Lilian Batelot, Les Malvenus de Audrey Brière. Ces polars, on vous les a donc présentés en détail dans les émissions précédentes que vous pourrez écouter en podcast sur radiolarzac.org. Aujourd'hui, on revient sur ces livres avec nos invités, tous des éminents membres du jury. Didier Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Sylvie Dumazet.
Bonjour.
Guy Calmette.
Bonjour.
William Verdier.
Bonjour.
Et Lionel Loqueneau.
Bonjour.
Pour être complètement transparent, il faut vous présenter aussi les membres du jury qui ne sont pas présents ici. Il y a donc Frédéric Brouillet, Fabienne Bédouin, Hélène Calvez, Gaëlle Marceny, Véronique Pichard, Christine Giraud et Madeleine Messaoudi. Alors, les votes du public sont clos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe maintenant, Guy ?
Oui. Les votes du public sont clos. Nous avons reçu les votes des médiathèques et bibliothèques qui ont participé. À ce jour, il y a une soixantaine de lecteurs qui ont donné leur vote. On ne va pas vous dévoiler le résultat. D'autant que le prix sera attribué en fonction du vote du public et du vote du jury. Le jury va se réunir. Et de ce débat du jury sortira un lauréat ou une lauréate.
Il y a beaucoup de femmes en lice.
Il y a beaucoup de femmes en lice. Il y en a 3 sur 5 candidats ou candidates. Donc, le vote va être réparti par moitié entre le prix du public et le jury. Donc, pour le moment, on ne sait pas qui va être élu, lauréat ou lauréate. Nous verrons bien.
Et nous vous l'annoncerons. Le samedi 15 juin. C'est Sylvie qui va nous expliquer ce qui va se passer samedi 15 juin.
Oui, alors samedi, on aimerait tous vous retrouver à 16h à la médiathèque de Millau. On espère avoir notre auteur en présentiel, mais sinon en visio. Ils ont été prévenus par leur maison d'édition. Normalement, on devrait avoir une réponse positive et ils devraient être là. Cette petite rencontre, elle est ouverte à tous et on aimerait aussi avoir des adhérents des différentes médiathèques et bibliothèques qui ont participé parce que ce serait intéressant qu'ils viennent ce jour-là justement nous donner un peu leur avis, leurs sentiments, pour qui ils ont voté ou pas. On en profitera aussi pour remettre le prix Robin Cook Jeunesse. Les élèves vont voter aujourd'hui, vendredi. Donc voilà. Et puis samedi, nous aurons, à la suite de cet échange débat, un petit apéritif, un moment convivial où on pourra partager autour d'un verre de vin, forcément.
Voilà, forcément. N'oublions pas le vin et la bonne compagnie.
Forcément.
Qui va gagner le prix Robin Cook ? Le suspense est intense. En tout cas, vous tous ici, Sylvie, Guy, William, Lionel et Didier, vous les avez tous lus. Vous avez déjà choisi votre préféré, dans votre tête en tout cas. Vous ne nous direz pas lequel, mais vous allez en discuter ici, là, même, maintenant, dans le studio de Radio Larzac. On commençait par Géronimo et moi de Lilian Batelot.
Oui, cet ouvrage, c'est le premier que j'ai lu. Donc j'ai lu cet ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai présenté, mais Lilian Batelot, qu'on peut écouter dans le podcast, l'a très très bien présenté. C'est un ouvrage original qui mélange histoire, politique, société, amour, aventure et tout ce qu'on veut. C'est un livre qu'il faut lire et comme je l'ai conseillé, c'est à dévorer. Maintenant, je dirais que c'est peut-être pas celui que j'ai choisi moi.
Puisque vous ne présentez pas de toute façon forcément.
Voilà, j'ai lu tous les autres maintenant et ça sera peut-être une autre décision que je prendrai lors de la réunion du jury.
Donc tu parles d'histoire, ça se passe à quelle époque?
Ça se passe un peu avant la Commune de Paris et pendant la Commune et postérieurement à la Commune quelques années après.
Un avis parmi vous sur Géronimo et moi? William?
J'ai sensiblement le même âge que Lilian Batelot. Moi aussi, j'ai eu les petits cow-boys indiens offerts par le chocolat colère, donc ça vous situe l'époque à peu près. Donc je suis fan des Indiens. La Commune de Paris, c'est une période à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce livre, c'est un bouquin qui est éminemment féministe, puisque l'héroïne est une femme. Moi, donc, c'est effectivement une jeune femme qui quitte son Aveyron et puis qui, bon, ça a été raconté, hein, qui est abusée par son patron sur Paris, etc., etc., qui rencontre les grandes dames qui ont fait l'histoire de la Commune de Paris, comme Louise Michel, etc., et qui, comme beaucoup de communards, est obligée de partir vers les États-Unis, et le hasard fait qu'elle rencontre Géronimo. Donc voilà, Commune de Paris plus les Indiens, moi c'est, j'allais dire tiercé, mais ça fait que deux, donc il faut que je trouve les féminismes, voilà. C'est un tiercé gagnant pour moi. Non, vraiment, c'est... Et puis ce serait bien, parce que là, c'est la quatrième fois, les trois premières fois, ce sont des femmes qui ont été lauréates, ce serait bien qu'un homme gagne quand même. Mais sinon, c'est un livre féministe.
Didier,
tu te rattrapes. Hein.
C'est difficile de parler après cette conclusion. Ouais, non, c'est un polar, c'est historique, c'est une aventure en plus. Hein, c'est une aventure. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça m'a vraiment intéressé sur la Commune. Bon, je connaissais pas grand chose, encore moins sur le rôle des femmes. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter sur ce qu'a dit William? C'est que moi, cette héroïne, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, elle m'a ému. Et ça, c'est vraiment un personnage qui est incarné dans le bouquin. Et puis tout autour, il y a un homme, un aventurier. Donc c'est un excellent livre. Voilà, pour commencer à aimer les polars, en tout cas ceux qu'on aime nous, sans doute.
Sylvie?
Oui, moi je dis que Lilian, que je connais aussi, il faut être sacrément culotté pour écrire cette histoire. Franchement, la petite Aveyronnaise qui monte à Paris. Alors c'est vrai que à Paris, on a vraiment les faits, on est dans l'histoire, hein, on est de la petite histoire dans la grande histoire, hein, cette histoire de la Commune de Paris. Et puis après, il nous l'a fait partir aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'il y a eu des migrants à cette époque-là aux États-Unis, mais alors là, elle part pour une encore plus grande aventure. Et j'ai envie de demander à Lilian Batelot, t'y es allé aux States?
Niveau de l'écriture?
Ah, c'est toujours très bien écrit. Lilian, il a une belle écriture. Il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il écrit, malgré des faits parfois assez difficiles. Moi, je trouve que sa plume, elle est toujours belle. Il y a des moments très crus, très durs, et il y a de la poésie aussi à côté.
Polar, Vin et compagnie pour le prix Robin Cook. Et si on écoutait la présentation La vie de Lionel sur mai 67 de Thomas Cantaloube?
Alors mai 67 est un polar historique, comme c'est devenu un petit peu la mode de nos jours. C'est-à-dire que les journalistes et les historiens, quand ils ne peuvent pas vraiment dire ce qui s'est passé, ils en font un roman et pour faire ressortir leur vérité au moins. Donc là, ça se passe, ce sont les émeutes de 1967 à la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a eu, suite à une altercation entre un commerçant blanc et un vendeur ambulant noir, il y a eu un déclenchement d'émeutes, et puis les béquets et les forces de l'ordre ont ouvert le feu à Tire-Larigot. Donc ça a fait des centaines de morts probablement. Et on n'a jamais vraiment su. Il y a eu une enquête, mais très tardive, et on n'arrive pas bien à savoir. Donc c'est un roman qui traite de ça en s'appuyant sur ses précédents romans. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie d'une trilogie où Thomas Cantaloube raconte l'histoire des débuts de la Ve République avec ses magouilles. Donc le premier était sur les Algériens, le deuxième... sur la France-Afrique, et le troisième, donc, est sur la Guadeloupe. Voilà.
Bon. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce bouquin ?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Et, de toute façon, Cantaloube, c'est un ancien journaliste qui a beaucoup bourlingué, qui sait de quoi il parle, c'est très documenté, c'est très bien écrit. Et puis, ses personnages sont attachants, parce qu'il y a des salauds, mais les salauds, on arrive à les aimer. Et des mecs bien, dont on arrive à penser qu'ils sont pas si bien que ça. Enfin, c'est intéressant de ce point de vue.
Sylvie ?
Oui, je suis d'accord. Je rejoins sur les personnages, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce bouquin. J'ai trouvé, justement, que les personnages s'essoufflaient un peu par rapport aux deux autres. J'ai trouvé que ce roman, j'ai aimé sa façon qu'il a toujours de raconter et cette véracité des faits. Et en même temps, dans celui-là, j'ai été un peu déçue par rapport aux deux autres parce que j'ai pas retrouvé cette fougue qu'il y avait dans les deux autres. Si ce n'est que l'événement proposé est un événement qu'on connaît peu en France, les événements en Guadeloupe en 67, et que c'était très intéressant de les avoir, et que ces personnages justement qui sont très détestables et auxquels on s'attache énormément, et c'est là toute la richesse aussi de ce livre-là, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu en fin de parcours. Mais c'est l'âge aussi, ils sont âgés dans ce livre. Mais bon, ceci dit, c'est un très bon roman quand même.
Voilà, sur l'âge, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Bon, on peut avoir un certain âge. Bon, mais tout ça pour dire que, pour rajouter, c'est aussi un livre qui éclaire les situations contemporaines actuelles. On voit qu'il faut peu de choses pour déclencher une émeute. Je pense que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs très récemment. Par rapport donc à l'histoire, c'est indéniable, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas. L'écriture, moi je suis moins emballé. Je trouve que question littérature, alors bon, il sait écrire, mais bon, il y a moins de style peut-être que dans d'autres des livres qui nous ont été proposés. Et puis, un tout petit défaut, c'est qu'il y a un personnage féminin qui est extrêmement importante, hein, on la voit en prison, on en parle beaucoup, mais elle n'existe pas tellement dans le livre. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage.
Guy ?
Oui, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas une écriture... poétique, c'est très journalistique, c'est très précis, c'est bien écrit, c'est précis, il y a du vocabulaire, c'est un ouvrage que j'ai pris un grand plaisir à lire, j'ai appris énormément de choses aussi dans cet ouvrage, parce que, et après je suis allé me documenter parce que je ne savais pas que ça existait, mais je dirais que cet ouvrage n'amène pas beaucoup de rêves, il est méthodique, clair, mais pas, il ne porte pas. Sinon, c'est super bien écrit.
Il n'est pas écrit pour ça. Il n'est pas écrit pour donner du rêve.
Hein. Je n'ai pas demandé ton avis.
Et je le donne quand même.
C'est un débat. Il a le droit de donner son avis.
Est-ce qu'un polar donne du rêve ?
Alors, moi, celui-là ne m'en a pas donné. Parce qu'on est dans des faits historiques que je ne connaissais effectivement absolument pas. Alors, oui, c'est peut-être trop journalistique, en fait. Mais ça m'a donné envie de lire les deux autres. Je ne les avais pas lus. Parce que ce côté où on voit des personnes, des existants, quoi, des personnes politiques qui ont existé, qui ont eu vraiment ces rôles-là, mélangés avec ces personnes de fiction, on ne sait plus trop où est la réalité, où est l'invention. Et non, c'est intéressant. Après, c'est vrai, ouais, je pas passionné, non.
Je suis du même avis que toi, William. J'ai envie de lire les autres. Et je pense qu'effectivement, il faut aller au bout de la lecture pour tout comprendre. Ceci dit, même si on n'attend pas de rêve d'un livre policier, d'un livre, je cherche un peu de plaisir, de nouveauté, d'imaginaire. Parce que là, c'est vraiment trop précis pour moi.
Ben justement, si on passe au livre suivant, je vais vous donner de l'imaginaire.
«
Malvenue d'Audrey Brière, et c'est Sylvie qui nous le présente.
Oui, alors je vous ai promis du mystère, du rêve et de l'imaginaire. Effectivement, Les Malvenus, c'est un roman qui se situe en 1917, année terrible pendant la guerre de 14-18, la pire année, certainement. Et là, on se retrouve en Bourgogne, en fait, autour d'un crime crapuleux, dégueulasse, et en même temps, on a égorgé un type détestable. Donc du coup, tout le monde peut être coupable, complice, et on va retrouver autour de ce cadavre, en fait, un bon nombre de personnages hauts en couleur. On a énormément de personnages féminins, parce qu'on est dans proche d'un couvent des Ursulines, et que ces Ursulines, elles vont être mêlées à cette histoire. Des personnages atypiques, parce qu'effectivement, comme on est en 17, tous les hommes valides sont partis à la guerre, et dans ce village, il ne reste que des estropiés, des vieux, des femmes, des enfants, et des gens bizarres, marginaux presque, on pourrait dire. S'il en est le personnage principal, l'inspecteur de police Mathias Lavaux, qui est le personnage un peu central, l'homme pivot de cette histoire, qui est un assez jeune inspecteur qui a fait ses armes à Lyon, qui est passé par Paris, dans lequel il a travaillé auprès d'Alphonse Bertillon et du Bertillonnage. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le début de la biométrie et de la technique de l'identification judiciaire. Et il est accompagné d'une jeune femme pour le moins mystérieuse, Esther. Et moi, c'est ce personnage-là qui m'a vraiment accroché dans cette histoire. Parce que Esther, on sait très peu chose d'elle, en fait, presque rien. C'est une jeune femme qui plaît aux hommes, qui en même temps est très sur la réserve. On ne sait pas si elle aime les hommes ou les femmes. Moi, elle m'a fait énormément penser à Adèle Blanc-Sec. Voilà, moi j'ai retrouvé un personnage comme ça, complètement fou et farfelu. Et elle a aussi, comme Adèle Blanc-Sec, cette espèce de toc où quand elle est là, il se passe des choses mystérieuses et étranges. Alors je ne sais pas si mes camarades ils l'ont ressenti comme ça, mais je vais leur laisser la parole.
Bon, là va y avoir débat. Alors moi, pas du tout. Pour moi, il y a 80 pages de trop dans ce livre. Alors je ne sais pas si c'est les 80 premières que j'ai eu vraiment du mal à franchir. Si c'est les 80 du milieu ou les 80 de la fin. Parce que, en fait, je sais qu'elle a fait d'autres livres, c'est son premier polar, Audrey Brière. En plus, elle a l'air de quelqu'un, puisque je l'ai interviewé, de très sympa. Mais j'ai l'impression qu'elle fait une sorte de compile de tout ce qui peut se passer dans le mystère, dans l'horreur. Il y a la dame blanche, il y a la jeune fille enfermée dans une tour, il y a la nonne un peu crapuleuse, un loup. Alors Esther s'appelle Esther Louve, elle a un loup qui, j'ai jamais compris. Moi je crois que c'était un fantasme au départ, ce loup, mais en fait il a l'air vraiment d'exister. Je suis complètement, ou alors je suis complètement passé à côté, peut-être que j'ai pas cette sensibilité féminine et qui m'aurait fait aimer ce livre, je sais pas. J'ai pas du tout accroché.
Ah, William, il vient de me faire un compliment.
Didier.
Aurais-je une sensibilité féminine? D'ailleurs, pourquoi pas, je revendique, hein, surtout après Adèle Blanc-Sec. Bon, ça, c'est vraiment un atout là, que tu viens de mettre sur la table. Moi, j'ai aimé, mais parce que je me suis moins posé de questions que celles qui vont sans doute être développées là. Parce que quand on gratte, effectivement, le livre n'est pas parfait. C'est son premier polar. D'ailleurs, c'est plus qu'un polar. Donc, on parle de femmes. On parle aussi beaucoup d'enfants abandonnés. Hein, c'est quand même le sujet. C'est qu'est-ce qu'il advient des enfants abandonnés dans un village en guerre. Bon, et on voit d'ailleurs tous les personnages en sont. Ça aussi, et on voit leur histoire. Bon, c'est assez détaillé pour le coup, hein, avec des parcours différents. Et puis il y a Esther. Moi, il y a une scène que j'adore parce qu'en fait, je crois que c'est le personnage principal. En fait, on dit que c'est le policier, mais je suis pas aussi sûr. Mais il y a une scène qui m'a vraiment marqué. C'est quand presque à la fin, elle s'allonge à côté du policier. On attend que ça depuis un bon bout de temps. Et puis au moment où ça arrive, on est heureux.
Oui, moi, comme William, j'ai eu un mal inouï à rentrer dans ce livre. Le début était un peu inutile, je dirais. Mais j'ai essayé de passer le cap et je me suis dit, mais laisse-toi porter un peu par l'histoire. Ne cherche pas les a priori sur comment ce qui est plausible, pas plausible, ce qui est vrai, pas vrai. Parce qu'il y a les gens qui ont essayé de m'influencer ici, d'ailleurs.
C'est pas vrai.
Je parle pas de toi, Sylvie. Donc, je me suis laissé porter par le livre et je suis pas tout à fait d'accord. De toute façon, le livre fait pas 200 pages, il en fait 320. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Et il fait partie des livres que j'ai laissé de côté quand il me restait 20 pages à lire parce que je ne voulais pas le finir. Et quand je ne veux pas finir un livre, c'est qu'il m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte de ça au fil du temps, que quand même, les livres que je ne finis pas, c'est les livres que je ne veux pas finir. J'ai trouvé énormément de plaisir dans ce livre. Finalement, l'histoire est bien ficelée, tout tient la route. C'est vrai que le loup, on peut en parler. L'histoire enfermée dans le pigeonnier, on ne comprend pas trop l'histoire parce qu'il n'y a rien qui le fait fonctionner. Mais au final, c'est pas mal, tout est pas mal.
Bah, c'est ce que je lui reprochais, c'est ça, l'argument de la licence poétique pour ne pas avoir un récit qui est plausible même. On peut faire poétique tout en étant plausible. Par exemple, elle situe son roman en 1917, en pleine guerre, et elle ne connaît pas du tout la période, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle nous parle de chars en 1914, de tranchées en 1914, alors que ça n'est venu que plus tard. Elle met des loses sur les toits de Bourgogne. Là, moi, j'en ai jamais vu, mais bon, peut-être arriver. Elle nous met un inspecteur de police dans un village de 500 habitants, alors que la police, c'est 5000 habitants, et que dans les villages comme ça, à l'époque, c'était le garde de champêtre. Il n'y avait même pas la gendarmerie. Enfin, bon, il y a tout un tas d'inexactitudes qui gênent pour la lecture, je trouve. Enfin, moi, ça m'a gêné, en tout cas.
Et oui, moi, c'est ce que j'ai aimé, justement. C'est, la véracité des événements, elle m'a pas tenue. Par contre, cette ambiance qui est presque gothique, qui est une ambiance presque à la 19e siècle, eh ben, c'est ça qui porte le roman, en fait, et ses personnages féminins.
Et on continue ce petit tour des polars en compétition pour le prix Robin Cook avec Panique en Armorique de Dominique Sylvain.
Oui, alors Panique en Armorique, c'est pas gothique, hein, c'est pas journalistique non plus. Bon, un peu sociétal peut-être. Hein. Donc je ne vais pas revenir sur la présentation. Hein, c'est encore une fois une aventure d'un duo, une aventure récurrente d'un duo qui se connaît bien. Hein, un duo d'ailleurs assez sympathique, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on croise une stripteaseuse qui se promène avec une policière en retraite, hein, et en plus avec qui elle a enquêté sur des aventures souvent extraordinaires. Bon, donc un côté humoristique à coup sûr, mais qui traite un sujet de société qui l'est beaucoup moins, hein, puisque là c'est l'agriculture industrielle, hein, c'est des problèmes environnementaux. Donc voilà, un mixte savamment dosé par une autrice qui a beaucoup d'expérience. Enfin, voilà ce qu'on peut dire en termes de résumé. Alors, est-ce que je l'ai adoré ? Plus j'y ai pensé, plus j'ai apprécié et aimé le bouquin.
Bah, j'aurais tendance à dire que sur ce livre, je mettrais un peu Joker. Parce que là, c'est effectivement 200 pages. Il y en a 190 qui sont pas très très intéressantes. Justement, le fond écolo sur l'agriculture, tout ça, ça me semble un peu surfait. C'est pas génial. J'ai rien trouvé à ce livre d'intéressant. Voilà. Après, il est pas mal écrit. Mais j'ai pas trouvé l'histoire ni prenante ni rien. Et pour revenir sur ce que disait Lionel sur les véracités des faits, quand on parle de moto, elle a un side, un BMW, oui. Ça avance pas et c'est un monstre, donc c'est nul.
Bon, c'est le motard agriculteur qui vient de vous parler. Alors quand on a passé la couverture, parce que la couverture elle est surprenante, elle est, enfin, faut oser en fait ouvrir le livre.
Ça fait BD,
ouais. Et donc on se dit, ouais, ça va être un truc un peu, je sais pas, un peu couillon, quoi, un peu, je sais pas. Et puis pour faire un clin d'œil à notre ami bénévole, la Florent, qui est derrière la vitre là-bas avec Nico, c'est un page turner. C'est lui qui m'a appris ce mot. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on est dans l'histoire.
Ça veut dire quoi?
Ben, qu'on tourne les pages et le livre tombe pas des mains. C'est-à-dire que moi, le soir, souvent, je vais pas encore parler des malvenus, mais je pense que je devais lire une page par soir avant de m'endormir. Et puis, non, Pardon, Audrey Brière. C'est pas vrai. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est un livre qui est jubilatoire, je crois. C'est super bien écrit. Dominique Sylvain écrit super bien. Et je sais pas, donc c'est peut-être son éditeur qui choisit les couvertures. C'est... Voilà, faut peut-être réfléchir à ça, je sais pas.
Non, moi je trouve que ça fait un peu Club des 5 en vacances. C'est deux nanas qui se promènent en faisant des enquêtes complètement bizarres. L'écoterrorisme, c'est tellement à la mode qu'on finit par en avoir marre à force.
Justement, il n'y a aucun bouquin qui a été écrit là-dessus.
Aussi, si, il y a un Orec, par exemple, je ne sais plus le titre. Enfin bon, je pense aux auteurs de la région.
Ah ouais. Moi, je voulais rajouter que, je pense que c'est aussi le seul polar qu'on avait dans la sélection qui était humoristique et dans lequel il y a de l'humour aussi. Et il y a un duo complètement improbable. Moi, je les ai tous lus, les anciens et celui-là. Et en fait, ces deux héroïnes, elles ont, enfin, c'est comme deux pieds nickelés, quoi. Elles ont rien qui les rassemble. Et en fait, ce qui les fait marcher ensemble, c'est ça, c'est ce côté humour et puis ce côté enquête. Et c'est vrai que c'est un petit côté désuet. Je suis d'accord avec toi, Club des 5 désuet. Mais je trouve ça quand même emballant. Et pouvoir rigoler un peu, franchement, c'est pas mal.
Et alors, c'est pas le dernier mot, mais quand même, pour notre association, c'est qu'ils parlent de vin. Hein, je les entends encore ouvrir une bouteille de Pic Saint-Loup.
Ainsi, on terminait ce tour de table avec « Sans collier » de Michel Pedignelli. William ?
Oui. Alors, c'est le troisième tome, on va dire, des aventures de Julia Bocanera. Ju, on a l'impression que c'est le pendant de Michel Pedignelli. Bon, on a croisé à plusieurs reprises Michel Pedignelli sur des salons. On la suit sur sa page Facebook, elle partage des photos de son chien, de ses enfants, etc. C'est quelqu'un d'attachant, d'accessible, de sincère. On a envie d'aller boire un pot avec elle, partager un verre de Prosecco ou mieux de Frizzante, pour ceux qui auront écouté l'émission. Oui, se faire un petit resto et voilà, en faire une copine, quoi. Alors, je sais, on juge un livre, on ne juge pas un auteur ou une autrice, mais les personnages de Michel Pedignelli sont comme elle, en fait. Ils sont attachants, ils sont accessibles et on a envie de partager leurs aventures et mes aventures. En fait, c'est ça, le Sans collier. Alors, Sans collier, Michel Pedignelli fait du Michel Pedignelli, en fait. Donc, on n'est pas surpris, on aime bien. Là aussi, on est sur, maintenant que j'ai appris ce mot, je vais l'utiliser souvent, sur un pêche-tourneur. C'est un livre où elle a voulu donner la parole au sans-voix, c'est elle qui l'a dit dans l'interview qu'on avait fait. D'ailleurs, un des héros, la Ferdi, est justement muet. C'est une espèce de grand balèze muet, une sorte de golem. Michel Pedignelli, c'est une militante. Elle traite de la problématique des ouvriers sans papier, avec ses ouvriers moldaves, des accidents de travail, et puis aussi... puisqu'on parlait de sujets tout à l'heure d'actualité, elle parle du terrorisme. Alors un terrorisme qui était un terrorisme des années 70 en Italie, et rien à voir avec ce que ici on appelle l'éco-terrorisme. Enfin voilà, on est bien loin de tout ça.
Moi, ce livre, je l'ai bien aimé. Il se lit facilement, mais il n'y a pas grand-chose dedans à la sortie. J'ai trouvé que dommage que l'articulation de l'intrigue à la fin, comment ça se conclut, c'est trop facile. On dirait que la sortie, c'est un peu tout, ficelé pour sortir vite et conclure rapidement le livre pour que ça fonctionne. Mais le livre est intéressant, on le lit autour des pages, effectivement, on le lit. Je l'ai lu en une soirée, donc c'est un livre qui se lit facilement.
Oui, pour revenir sur les événements politiques qui sont évoquée, je vais dire juste évoquée, parce qu'effectivement, elle parle de l'Italie à la grande époque du grand banditisme et terrorisme, mais elle ne fait que l'ébaucher, parce qu'évidemment, la somme du livre ne pourrait pas y contenir. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que là aussi, on a un duo de personnages, parfois mal assortis, puisqu'elle vit avec un de ses collègues qui n'est pas du même bord qu'elle. Bon, voilà, ça entretient des relations avec leur chien aussi. Il y a aussi, là aussi, un univers du quotidien, un peu comme dans le livre de Dominique Sylvain, où ces personnages, au-delà de l'intrigue, nous apportent aussi un peu d'humanité et un peu de partage aussi. Et ça, c'est peut-être des points positifs qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans les polars, au-delà de la noirceur des histoires qui sont racontées. Après, c'est vrai que voilà, moi, je pense que c'est des sujets qu'elle aborde qui mériteraient peut-être beaucoup plus, à être beaucoup plus étoffés. Lionel ?
Oui, ben, c'est la proximité de Nice avec l'Italie qui a dû la faire traiter du sujet des années de plomb en Italie, effectivement, où l'extrême droite et l'extrême gauche étaient vraiment très violentes des deux côtés. Là, c'est un groupe d'extrême gauche qui s'appelle les
Sans-colliers.
Parce qu'ils ne veulent pas être affiliés à aucun mouvement. Bon, c'est... Oui, moi j'ai bien aimé, mais enfin bon, ça ne m'a pas non plus empêché de dormir.
J'ai l'impression qu'elle a eu du mal à choisir son camp, parce qu'on a une enquête, ou deux enquêtes, hein, qui s'entremêlent après. C'est vrai que l'atterrissage, on se demande comment on va atterrir, et que ça va vite, quoi. Enfin bon, c'est souvent le cas, malheureusement, dans les romans policiers. On sent que la fin est toujours des fois très très difficile après un long développement. Bon, mais elle hésite un peu, parce qu'il y a une enquête sérieuse, et puis il y a des personnages qui le sont moins. Alors, pas autant, ils sont pas autant humoristiques que Panique en armorique, mais des fois, ils le sont, et je trouve que du coup, on est un petit peu mal à l'aise, quoi. Puis elle s'est forcée à donner un compagnon qui n'en est pas un à l'enquêtrice, elle a son mari. Bon, je veux dire, on l'a déjà vu ça, quoi. Voilà.
Et voilà, on espère que ce petit tour d'horizon des candidats au prix Robin Cook vous a donné envie de les lire si vous n'aviez pas encore déjà lu ces livres. D'ailleurs, ça sert un peu à ça, le prix Robin Cook ?
Oui, le prix Robin Cook, ça sert à découvrir le polar, le roman policier, le roman énigme, tout ce qui tourne autour du roman policier. On l'a vu là dans cet échange qu'on a eu entre nous, des choses très très différentes, des auteurs, des univers complètement différents. C'est un thème qu'on peut aborder de façon humoristique, on l'a vu de façon grave, de façon politique, de façon beaucoup plus imagée, beaucoup plus gothique. Et c'est ça en fait, c'est permettre aux usagers des bibliothèques et des médiathèques et à tous les autres qui auraient envie de se lancer dans un genre qu'ils ne connaissent pas forcément. Et on peut être aussi force de prescription et voilà, donner envie. Juste donner envie d'ouvrir un livre et d'ouvrir un polar.
On peut peut-être rappeler les titres et les éditeurs. Donc, Thomas Cantaloube, mai 67, Gallimard, série noire.
Panique en armorique de Dominique Sylvain aux éditions Robert Laffont.
Géronimo et moi de Lilian Batelot chez 10-18.
Audrey Brière, Les Malvenus aux éditions du Seuil, collection Cadre Noir.
Et Michel Pedignelli, Sans collier chez L'Aube Noire.
On vous donne rendez-vous samedi 15 juin.
Oui, je rappelle le 15 juin, donc à 16h à la médiathèque, avec potentiellement notre auteur élu en visio ou en présentiel. On attend beaucoup de monde et notamment les gens qui auront lu les livres et qui auront envie de venir en parler avec nous. Le prix Robin Cook Jeunesse sera remis à ce moment-là aussi et ça suivra avec une séance de dédicace évidemment et un petit moment convivial autour du vin.
À bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.